Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e numéro de JT Foot. Il n'y a pas eu de miracle samedi après-midi au Vélodrome où les joueurs du TFC se sont inclinés sur le plus petit des scores, 1-0. Pourtant, pour la deuxième fois consécutive après le match face à Strasbourg de mercredi, les Violets n'ont pas à rougir de leurs prestations. Un jeu retrouvé oui, mais une nouvelle défaite qui rapproche un peu plus les Toulousains de la relégation. Nous reviendrons bien sûr sur la rencontre avec nos chroniqueurs en plateau, Simon et Arnaud. Nous délivrerons les traditionnelles récompenses aux joueurs du TFC et nous projetterons vers le match face à l'OGC Nice le week-end prochain. Au sommaire, Thomas nous énoncera les résultats du week-end et les actus du TEF. Puis Axel vous fera faire le tour des sorties les plus marquantes de la planète foot dans le top d'éclat. Enfin, nous nous adonnerons à notre traditionnel quiz préparé par le maestro Julien Bosque. Allez, trêve de bavardage, EJT Foot, c'est parti. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de JT Foot. Avec moi en plateau, Simon et Arnaud, ça va les gars? Remis de cette énième défaite du TEF?
Ben on est là, maintenant on s'y habitue, hein, vu qu'ils enchaînent, même s'ils nous ont fait un petit écart face à Amiens.
Ouais c'est ça, si c'est des défaites ça va, c'est quand il y aura une victoire qu'il va falloir s'en remettre.
Bon en tout cas on espère que la prochaine rubrique nous redonnera de meilleures nouvelles. C'est l'heure du TEF Actu préparé par Thomas.
On commence avec les U17 du TFC qui ont concédé le match nul face à Blois 2-2. C'est le troisième nul en 4 matchs pour les Violets. Match nul toujours pour la catégorie d'au-dessus, les U19. 7e au classement, ils n'ont pas réussi à battre le 12e, Castelnau-Lecré. Vainqueur de Lyon-la-Duchère de la semaine dernière, les Pitchouns joueront face à Mérignac en 8e de finale en Coupe Gambardella. Défaite de la réserve, qui n'ont pas fait le poids face au leader Canet-en-Roussillon 2-0. Pour finir sur une note positive, les féminines se sont imposées à Brest grâce à un but de Margot Lissard. Ce succès permet aux Violettes de prendre une petite marge de 4 points sur l'avant-dernier Albi. Maintenant, petit point sur les blessures. Maxime Gradel a repris le chemin de l'entraînement collectif aujourd'hui. Pas sûr cependant qu'il soit apte pour affronter Nice samedi. La durée d'indisponibilité de la recrue hivernale Lovre Kalinic, blessée à la cuisse, n'est pas encore connue.
Merci Thomas pour ce tour d'infos sur le TEF. Il est désormais l'heure de se projeter vers le match des Violets ce samedi à Marseille. Comme Paris, comme Toulouse, comme Toulouse. Samedi après-midi, les joueurs de Denis Zanko se sont une nouvelle fois inclinés en Ligue 1, cette fois au Vélodrome. C'est la 13e défaite sur les 14 dernières rencontres des Violets en championnat. Un bilan terrible donc, pourtant depuis deux matchs on sent vraiment du mieux. Mercredi face à Strasbourg, les Toulousains avaient déjà perdu sur le plus petit des scores et avaient montré quelques signes de satisfaction. Ces signes-là, quelques bons mouvements offensifs par exemple, on les a retrouvés à Marseille samedi. Sans un grand Mandanda et si Payet avait prêté un peu de son âme de tueur aux attaquants violets, le TEF aurait vraiment pu ramener un point, voire plus de Marseille. Arnaud Simon, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette rencontre? On pouvait s'attendre logiquement à une nouvelle défaite chez les deuxièmes du championnat, mais on est quand même frustrés. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui a manqué pour que ce match bascule du bon côté?
Bah, de l'efficacité, en fait.
Ouais, et puis du côté toulousain, un peu de talent, finalement, parce que tu te retrouves face à un effectif qui est largement meilleur que toi. Et finalement, c'est assez logique de s'incliner, même si c'est vrai qu'il y a eu des signes encourageants. Je pense vraiment que cette équipe de Toulouse a un second souffle un peu là en début 2020, mais c'est qu'une façade par rapport à tous les problèmes qui...
Je te rejoins pas vraiment sur le côté logique. Alors logique oui sur le papier parce que tu affrontais quand même le deuxième du championnat et que t'étais bon dernier et que t'enchaînais les prestations insipides, mais je trouve que quand la physionomie du match t'es... En fait, tu dois pas ramener. Bon, on le voit, hein, Denis Zanko l'a dit, ils sont frustrés. Même les joueurs sont frustrés d'avoir d'être revenus avec 0 points de Marseille. Mais dans la physionomie du match, tu peux ramener le nul, en fait, voire le nul. Alors la victoire, c'était beaucoup trop optimiste, mais le nul parce que sur la première mi-temps, Marseille est totalement apathique. Enfin, c'est un Marseille qui n'existe pas, comme on le voit depuis quelques matchs avec l'Olympique de Marseille. Il y a pas d'occasion, ça bouge pas. Il y a que Payet qui fait des choses et qui propose le milieu.
Ah, mais justement, quand t'as un joueur comme Payet dans ton effectif, surtout à ce niveau-là, que tu joues bien ou pas, que tu sois solide défensivement ou pas, je pense que, enfin. À ce niveau-là, en Ligue 1, tu peux pas gagner contre une équipe de Marseille, même si elle a que Payet et Mandanda.
Oui, mais si tu peux, parce que dès la première mi-temps, t'as montré que tu pouvais et que si Léa Iseka faisait preuve d'un peu plus de justesse et dans son offensive, enfin, je veux dire, sa première action, il pousse son ballon trop loin, mais s'il est un peu plus juste, bah, tu ouvres le score face à Marseille et tu sais que Marseille, pas des grosses capacités de réaction et tu pouvais peut-être aller chercher un point. Alors peut-être la victoire c'est vraiment trop optimiste, mais un point je pense que c'était largement, largement faisable à la portée.
À la limite, s'il y a un retour de Gradel, enfin s'il y avait Gradel sur le terrain, je trouverais ça plus plausible, qu'avec l'effectif qu'ils avaient ce week-end dernier.
Ouais, du réalisme. Donc j'aimerais qu'on se penche quand même sur les signes de satisfaction. Hein. Une défense plus hermétique, on l'a dit, avec encore un très bon match de la recrue Gabrielsen. Enfin, un peu d'animation offensive. Est-ce que toi, Simon, tu penses que l'effet Zanko, il commence à prendre ?
En fait, pour moi, l'effet Zanko, c'est comme de refaire la carrosserie d'une voiture qui n'a plus de moteur. C'est-à-dire que c'est très bien, c'est beau, mais ça ne sert à rien.
C'est une belle image.
Non, mais c'est pas. Honnêtement, c'est-à-dire que ça joue bien, c'est de mieux en mieux, mais la situation est telle que le TEF n'arrivera pas à sauver. Et à la limite, peut-être qu'ils vont faire une victoire, deux victoires sur les matchs restants, mais ça ne sert à rien.
L'effet Zanko, ça sert à rien en fait de parler d'effet Zanko, parce que quand tu vois la qualité de cet effectif-là, sur le papier, en fait, cet effectif-là, il n'est pas censé être là de base.
Bien sûr.
Donc parler d'effet Zanko, non, en fait cet effectif commence à jouer comme il aurait dû jouer en fait depuis octobre, novembre.
Est-ce que tu penses qu'il y aurait n'importe qui aux commandes, ça serait pareil ?
Ouais, n'importe qui, je sais pas, mais dans l'idée, on le répète hein, dans JT Foot depuis le début de la saison, Toulouse est pas censé être là en fait, parce qu'il y a un effectif qui te permet de viser le milieu de tableau de Ligue 1. Je sais pas ce qui s'est passé, bon il y a eu des recrues, hein. Gabrielsen, tu parles d'un bon match, Gabrielsen quand même sans Stéphanie Frappard, il y a quand même pénalty pour Marseille à la 40e, si Stéphanie Frappard fait preuve, voilà, on a de la chance, elle a fait preuve de clémence, mais voilà, Gabrielsen a encore fait une erreur stupide, et Gabrielsen, ça fait depuis le début de la saison qu'il a du mal à s'intégrer, la défense, je l'ai pas trouvé, ouais elle était solide, ils ont retrouvé certains repères, mais bon on en reparlera plus tard, il y a certains joueurs qui ont encore déçu quoi, et puis... Voilà, après il y a un système qui se met en place, il y a le 4-1-4-1 qui a l'air de fonctionner, où ils ont l'air de trouver une certaine assise défensive qui leur manquait depuis le début de la saison. Offensivement pareil, après voilà, les YICK c'est pas au niveau, tous les joueurs offensifs c'est pas au niveau, quoi. Ils sont loin déjà de leur niveau, et déjà qu'ils ont pas forcément un très bon niveau, forcément c'est difficile pour Toulouse cette année. Quoi.
Non c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un changement qui a été opéré depuis l'arrivée de Zanko au poste d'entraîneur, mais après le truc c'est que c'est tellement tard que on peut pas se réjouir de ça. C'est-à-dire que si ça avait été une réaction là à la septième journée, là on aurait pu parler d'effet Zanko parce qu'il y a quelque chose derrière. Et en fait, après on l'a vu hein, en conférence de presse, nous quand on y va, c'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu. C'est largement plus enthousiasmant que quand il y avait Comboiré, parce que Comboiré, à part motiver un vestiaire, j'ai pas l'impression qu'il sache faire grand chose au niveau tactique.
Comboiré, ça jamais été un grand tacticien.
Voilà, avec tout le respect que je lui dois. Hein. Mais Zanko, on sent vraiment qu'il essaye de mettre en place des choses. Quand on a une équipe contre Amiens qui va vraiment presser très haut et que t'as Manu Koné qui est vraiment, enfin, qui est de base pour moi un milieu plutôt défensif, voire peut-être un box-to-box, qui va presser hyper haut dans une position numéro 10. Là, ok, il y a un certain effet Zanko. Mais le problème, c'est que tu n'auras aucune retombée derrière.
Bon, le TEF est toujours bon dernier à 11 longueurs de la 18e place, synonyme de barrage. Les concurrents directs, eux, parviennent à prendre des points, comme Nîmes, vainqueur de Nice ce samedi. Il reste 14 journées pour un miracle, hein, y a pas d'autre mot. Les gars, pour vous, ça y est, le TEF est en Ligue 2. Est-ce que vous pensez que les joueurs et le staff se sont fait une raison? Ou alors, vous avez, vous, un petit peu d'espoir avec notamment les deux dernières prestations qui sont un peu plus encourageantes?
Je sais pas s'ils sont fait une raison. Je pense que dans la tête des supporters, moi, dans ma tête, c'est clair. Le TEF est en Ligue 2 l'année prochaine et ça va être sympa d'aller voir Chambly, Niort et compagnie. Après, y a une réaction. Ça, faut quand même pas leur retirer ça. C'est que depuis deux matchs, on voit du mieux dans le jeu. Après, ça suffira pas parce que tu l'as dit. Les concurrents en fait ils gagnent au début de l'année on pensait pas que ça tiendrait, mais finalement Nîmes ça va engranger des points, bon Amiens a perdu ce week-end face à Monaco, mais en fait ils vont glaner les points qu'il faut, les matchs nuls ou les victoires en fait ils perdent pas, en fait ils sont pas forcément meilleurs, ils ont pas un effectif forcément meilleur que celui de Toulouse, mais dans le jeu ils vont se battre, ils vont chercher des points, et ce qui fait que maintenant 11 points ça paraît quand même très très irréalisable ou alors vraiment c'est l'exploit de l'année, et celui de réaliser avec Pascal Duprat c'est rien par rapport à celui qui sera fait cette année s'ils le font, mais bon.
Oh, franchement moi je pense que à l'intendance là ils ont déjà commandé les maillots de la Ligue 2 hein. Là il y a le badge qui est déjà mis, là c'est bon, direction à Domino's Ligue 2. Alors,
BKT ça, attention
Ligue 2 BKT, c'est vrai, ça fait mal hein, mais ça fait mal pour le TFC, mais je pense qu'il n'y a plus aucun espoir hein. Je pense qu'on s'était dit peut-être l'effet 2020, mais là non, Plus rien.
Bon, en tout cas, il est désormais l'heure de parler des tops et des flops parmi les joueurs du TFC. C'est l'heure des traditionnelles récompenses.
Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse.
Alors, pour une fois, il sera peut-être difficile de choisir lequel des Toulousains récompensés, tant certains ont fait un bon match. Je vais donc vous demander de suite, les gars, de discerner vos magrets, et ensuite, on fera les deux saucisses de cette partie face à Marseille. Alors, Arnaud, qui, selon toi, était le meilleur Toulousain samedi?
Mais tu l'as dit, j'ai cherché, mais pour une fois, en fait. J'ai cherché mon magret, j'ai choisi de le donner à Sangaré. Parce que j'ai bien aimé, alors il jouait dans ce rôle de 6 relayeurs dans cette tout seul devant la ligne de 4, entre les deux lignes de 4 de la défense et du milieu. Je trouve qu'il a été très très propre à la récupération, il sauve quand même Toulouse en début de match, il fait une intervention très propre devant Payet dans la surface. En fin de match pareil, bon, il évite le 2-0 mais il refait quand même une intervention. Il a été pas omniprésent mais très très présent, il a eu un gros volume de jeu dans le milieu, il a pas mal soulagé sa défense en redescendant dans la ligne pour mettre une ligne de 5, et c'est aussi grâce à lui que la défense de Toulouse a retrouvé une certaine forme de stabilité, je trouve, depuis deux matchs.
Ouais, moi je vais pencher pour un joueur plus offensif. Alors c'est pas forcément par la régularité dans tout le long du match, mais c'est vraiment Quentin Boigard. Je trouvais que sa faculté d'élimination, elle a fait très très mal, que ça soit à Strasbourg ou à Marseille. Et qu'il manquait un peu ça, un quelqu'un, pas forcément un numéro 10, parce que Boigard, je suis pas sûr qu'il ait capacité d'être un numéro 10, mais quelqu'un qui va aller provoquer et créer de l'animation offensive. Et enfin, quand on voyait le match d'Amiens et que Koulouri c'était seul devant, d'avoir quelqu'un qui va porter des ballons, qui va porter des ballons jusque dans les derniers 25 mètres, ça soulage aussi beaucoup le neuf. Donc voilà, je donne à Quentin Boigard.
Et maintenant les saucisses, messieurs.
Mais je l'ai pareil, vu que en fait les Toulousains ont tous été moyens. Alors moi je l'ai donné à Issiagassila. Bon, on sait qu'il a joué à gauche, on sait que c'est pas son poste de prédilection parce que tous les arrières gauches sont blessés ou suspendus à Toulouse. Mais je trouve qu'il était totalement dépassé. Il a jamais été dans le bon tempo, jamais bien placé, et c'est par hasard, mais la quasi totalité des actions marseillaises en fait viennent de son côté. À chaque fois que Marseille a été dangereux, en fait, c'était Issiagassila qui était mal. Donc pour moi, c'est ma saucisse de ce match-là.
Moi, je reste en attaque. Hein. J'opte pour Wesley Saïd. On l'a dit plusieurs fois que ce mec-là ne montre pas les qualités qu'il a intrinsèquement. Mais là, c'est assez parlant. Hein. Bon, contre Marseille, il a eu quelques éclairs de génie, mais le reste du temps, franchement, je le trouve vraiment transparent. Il montre rien, il apporte pas grand chose, et c'est très dommage parce que c'est un joueur que j'affectionne beaucoup.
Bon, malgré du mieux, donc ça reste peu réjouissant pour le TEF. Le bilan comptable est désastreux, et comme nos deux chroniqueurs en plateau, on commence vraiment à craindre une descente en Ligue 2. S'il doit y avoir un miracle, il devra absolument démarrer par une victoire à domicile le week-end prochain face à l'OGC Nice. Une réception délicate, même si les Aiglons viennent d'être défaits chez eux face au Croco Nîmois. En cas d'échec ce samedi à 20h au Stadium, on ne voit pas comment Toulouse pourra échapper définitivement à la relégation. En tout cas, allez, c'est l'heure tourne, et il est désormais temps de se pencher sur les déclarations choc de la planète foot avec Axel. Alors Axel, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Bonjour Victor, alors pour cette émission, j'ai réuni des déclats de coach et d'un directeur sportif, je vous laisserai y réagir librement. On commence avec Leonardo qui a fait une démonstration de communication au Canal Football Club dimanche soir, je pense qu'on s'en rappelle tous.
Ah oui.
Il répond aux nombreuses interrogations des médias avant le 8e de finale de Ligue des Champions contre Dortmund.
Mais pourquoi qu'on doit être avec cette préoccupation du 8e de finale de Champions League ? Honnêtement, je ne vois pas. Pourquoi qu'on doit être comme ça ? Où va arriver ? Ça va ? En première chose, on ne joue pas la vie, la mort pour un match contre Borussia. On joue la Champions League, on joue un match de football. Et bon, je pense que l'équipe aujourd'hui, elle est prête. Après, si on gagne, bien. Si on ne gagne pas, on va continuer. Et le Paris Saint-Germain continue à grandir. Je pense qu'on doit sortir un peu de tout ça.
Ouais. Il a fait le show. Hein.
Il a fait du Leonardo, quoi, comme on voit depuis le début de la saison. Et, il a fait 7 minutes de show. Et,
ça fait pas de mal.
Ça fait pas de mal de l'entendre parler. On l'aime bien.
Ouais, c'est vrai qu'il a essayé de rassurer un peu tout le monde, mais être éliminé en 8e de finale une nouvelle fois, ça remettrait pas en cause le projet Qatari.
Bon, là, on va faire court, mais il avait quand même dit au début de la saison, il faut pas l'oublier, que cette année pour le Paris Saint-Germain serait une saison de transition et qu'il faudrait bâtir sur des bases. Donc. C'est lui le directeur sportif.
C'est un malin.
C'est un malin. Il est habile en communication.
Voilà, c'est un malin.
Ah, il ruse bien depuis le début de la saison. Ah, merci Arnaud pour cette analyse. On passe à deuxième déclat, c'est le coach du Stade Rennais qui revient sur l'éviction du président Létang.
Oui, on va pas se mentir, les relations n'ont pas toujours été très harmonieuses. Voilà, pour autant, c'était mon président, c'est lui qui m'a donné la possibilité d'entraîner à ce niveau-là. Voilà, mais on a un actionnaire qui est là, qui décide. et qui prend les décisions qui voilà qui permettent au club de continuer à avancer. C'est la décision qui a été prise. Donc on doit regarder devant nous et mettre tout en œuvre pour que le Stade Rennais continue sa progression.
Du coup, les temps écartés par le Stade Rennais, on voit Stéphane qui a dit que les relations n'étaient pas au beau fixe. Est-ce que pour vous, c'était une bonne idée de l'écarter maintenant alors que le Rennes vise peut-être une de ses meilleures saisons et est troisième du championnat ?
Non, évidemment, après de ce qui est sorti là dans l'actu, d'après notamment l'équipe, s'il y avait des difficultés dans la communication au sein d'un club, c'est vrai que ça paraît logique de se séparer des éléments qui font débat.
Ouais, je crois qu'on n'a pas encore tous les éléments vraiment à notre disposition, mais c'est vrai que ça a été un peu un coup de tonnerre, quoi. Après, on s'y attendait pas. Hein.
Après, Julien Stéphane a confirmé l'information que tout le monde avait eue avant, c'est que on lui avait donné 3 matchs pour sauver, et puis les temps, je pense, payent aussi quelques transferts hasardeux à Rennes, même si Rennes roule bien. On sait que les relations entre Stéphane et les temps n'étaient pas au top, et je pense que l'actionnaire a préféré privilégier l'entraîneur que le président. Voir ce que ça va donner pour Rennes. Sur cette fin de saison, parce qu'ils font une belle saison, en effet.
C'est vrai que ça arrive à la fin du mercato d'hiver, notamment où a été pris en prêt Nzonzi, qui a un des salaires les plus élevés de la Ligue 1. Ouais. Ça peut aussi poser question.
Ouais, c'est possible.
Dernière déclat, vient d'un coach qu'on a bien connu à Toulouse, hein, puisque c'est en effet Pascal Duprat qui réagit après sa victoire 4-3 contre Niort et nous offre sa vision du foot.
Voilà. Alors certains d'entre vous écriront que Niort joue bien au football, mais en fait, se faire des passes à 80 mètres du but, c'est pas bien jouer au foot, hein. Voilà. En tout cas, c'est pas le foot que j'aime.
Ouais, il est fantastique, je peux te dire. Il me régale. Ah ouais, non, il est trop fort. Il a pris une leçon de football et derrière, il arrive à switcher le truc. Il est trop fort.
Il prend une belle leçon de football, hein, parce que le premier but de Niort,
elle est
jeter un coup d'œil dessus.
Ouais, il est incroyable.
En début de match, ils partent de leur surface et une passe à 10, ça arrive dans le but de Caen pour rien faire. Donc la victoire, oui.
De mauvais espoir, Patrick.
L'incarnation de la mauvaise foi.
Ça, on lui enlèvera pas, hein, quand on lui enverra pas sa vision de la tactique, hein, il reste sur ses fans d'amour.
C'est ça. Comme on l'a bien connu ici. Allez, donc EJT Foot, c'est fini. Ah non, pardon, excusez-moi. EJT Foot touche à sa fin, mais il est désormais temps de conclure cette émission avec le traditionnel quiz. Et qui de mieux que le maître en la matière ? Allez, Julien, c'est à toi de jouer.
Bonsoir tout le monde, c'est pas encore fini, hein. On va me laisser faire mon quiz, s'il vous plaît, messieurs. Hein.
Une erreur, ça va.
Ça arrive, même au meilleur. Donc hier soir, on va aussi parler d'erreurs d'ailleurs, parce que lors de la victoire du PSG face à l'OL sur le score de 4-2, l'arrière-gauche rodanien Fernando Marsal nous a ratifié d'un magnifique but contre son camp.
Superbe.
Oh, magnifique. Sous la plat du pied.
Très très bien placé.
Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces boulettes, de ces erreurs qui coûtent extrêmement cher, mais qui nous font, il faut bien l'avouer, bien rire. On va rester en Ligue 1 pour ce quiz, on va pas partir en Angleterre, etc. On reste en Ligue 1 avec le meilleur buteur cette saison contre son camp. Il y a un joueur qui a mis 2 buts contre son camp.
En Ligue 1 ?
En Ligue 1. Cherchez pas très loin.
Abdelhamid ?
Non, Fernando Marsal.
C'est Marsal. Il avait déjà mis un but contre son camp, contre Nantes, lors de la 8e journée. Un magnifique but. Vous allez aller le voir.
Une belle spécialité.
Ouais. Autre club spécialiste des buts contre son camp, qui a marqué le plus de buts contre son camp l'an dernier. Quel est ce club ?
Paris, il me semble.
Eh ben oui, c'est le PSG qui a marqué 4 buts contre son camp la saison dernière. C'est aussi le club qui a mis le plus de buts contre son camp dans la décennie, 19. Et qu'est-ce qui est plus beau qu'un but contre son camp ? Un doublé contre son camp. Et il y a un joueur qui l'a fait en septembre 2014, un défenseur rémois face au PSG. Est-ce que vous connaissez ce joueur ?
2004.
Alors, il a été capitaine de Reims, là il joue au Betis Séville actuellement.
Ah ouais, c'est Mandy ?
Aïssa
Mandy.
Oui,
ouais.
Propre.
Voilà. Déjà, il a gagné 3-0, il a mis un doublé contre son camp.
Ah oui, je me rappelle.
Et on va finir, puisqu'il y a OLOM mercredi, je vais revenir sur le 5-5, où il y a eu un but contre son camp, le dernier but. Vous vous rappelez de qui avait marqué ce but dans ce match mythique ?
Celle-là, elle est horrible, celle-là.
C'est un défenseur ?
C'est un milieu défenseur. Il a joué à Bordeaux, d'ailleurs, après.
Toulalan.
Et à Monaco.
Toulalan.
Toulalan. Toulalan. Toulalan. Toulalan. Toulalan. Toulalan. Magnifique but dans le temps additionnel, après la magnifique remontée des Lyonnais.
C'était un beau match.
Eh bien merci Julien, allez, JT Foot, c'est fini. Donc merci Julien pour ce quiz, une nouvelle fois très instructif. Merci à tous nos chroniqueurs qui vous auront encore fait vivre, je l'espère, une demi-heure passionnante pour se remettre des déboires toulousains. Et un pourvoyeur en régie qui nous a permis d'animer cette nouvelle émission que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast, comme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. On vous embrasse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.